Ésaïe chapitre 45, verset 14. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu, et il n'y en a point d'autre. Les dieux sont néants. Certes, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec confusion, les ciseleurs d'idoles. Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a fermée. Il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont pas de connaissance, ceux qui portent le bois de leur statue et qui intercèdent auprès d'un Dieu qui ne peut les sauver. Annoncez-le et présentez vos arguments. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines et depuis lors les a annoncés? N'est-ce pas moi, l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et qui sauve. À part moi, il n'y en a aucun. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. En l'Éternel seul, dira-t-on, réside pour moi les actes de justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui étaient en rage contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et se glorifieront tous les descendants d'Israël. Je vous invite à vous asseoir. Alors que je prie pour nous. Seigneur, nous voulons être dans tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs. Apprends-nous à te connaître, que ta parole nous façonne. Fais ça au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Selon les estimations, 40% des Français seraient soit agnostiques, soit déistes. L'un dans l'autre, il faut en conclure que beaucoup de nos concitoyens pensent que Dieu se cache. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils affichent publiquement. Car il me semble que beaucoup d'entre eux adoptent cette posture, notamment pour couper court à la réflexion et pour couper court aux conversations. Mais tout de même, d'un côté, l'athéisme les repousse par sa dureté, son militantisme. Et de l'autre, le rejet de toute foi leur paraît trop peu spirituel. Au fond d'eux-mêmes, ils savent trop bien qu'il y a tout un pan de l'existence qui pointe vers autre chose que la matière seule. Pourquoi pas l'agnosticisme, alors? Ils en sont donc là avec une certaine place pour Dieu dans leur tête. Mais cette place, quelle est-elle? Sans surprise, c'est la place qui est réservée à Dieu depuis le siècle des Lumières. Celle d'une figure dont on ne peut rien dire de démontrable. Une figure peut-être essentielle au grand cadre du cosmos, mais qu'on chercherait en vain à connaître selon les critères de la vérité. Un Dieu inconnu, un Dieu porte-place. Et cette place, au-delà de la connaissance qu'on réserve à Dieu, elle est consolidée depuis que les théories évolutionnistes se sont largement imposées. Dieu a plutôt intérêt à ne pas aller chercher plus loin que le Big Bang. Il a intérêt à en rester au rayon spiritualité et ésotérisme de nos librairies. Sinon, il va se faire discréditer sur toute la ligne, par la science et par l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Voyez-vous, le Dieu qui a encore sa place dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, c'est un Dieu sourd et muet. Et surtout qu'on n'aille pas le convoquer pour quoi que ce soit d'un petit peu sérieux qui pourrait nous concerner de près, comme la pandémie actuelle, par exemple. Je me souviens encore d'un article au printemps 2020, dans l'Express, qui ridiculisait la moindre lecture religieuse qui serait venue invoquer Dieu d'une manière ou d'une autre pour rendre compte de la crise sanitaire. Il fallait être délirant, je cite, pour ramener Dieu au beau milieu de cette problématique humaine. Et pour cause, depuis longtemps, il n'y a tout simplement plus dans nos catégories de pensée de catégorie pour un Dieu qui interviendrait dans l'histoire des hommes. Un Dieu qui aurait la prétention d'intervenir souverainement et de faire ce qui lui plaît, impensable. Un Dieu qui s'engagerait à accomplir des prophéties historiques dans un temps donné, impensable. Un Dieu qui ferait tout ce qu'il faut ici-bas pour pouvoir être jugé sur pièce ensuite, impensable. Et cet arrière-plan fait que ce 45e chapitre d'Ésaïe risquerait bien d'être inaudible. Voilà en effet un texte qui veut convaincre des lecteurs, preuve à l'appui, du caractère interventionniste du Dieu de l'univers. Ésaïe qui veut faire connaître le Dieu inconnu. Au début de son chapitre, il a annoncé prophétiquement l'avènement d'un Cyrus comme le nouveau maître d'un ordre mondial à partir de la Perse au 6e siècle. Et là, il estime que cette prédiction, une fois réalisée, devra servir de démonstration en faveur de son Dieu, en faveur d'un Dieu qui se mêle aux affaires des hommes, en faveur d'un Dieu qui a le drôle de goût de s'appeler aussi Dieu d'Israël. En termes d'audience, c'est plutôt mal parti. Écoutez à ce propos les quelques lignes de l'astronaute français Thomas Pesquet dans un entretien la semaine dernière. Lui est sur le point de retourner sur la Station internationale de l'espace, où il a déjà été, et voilà ce qu'il dit de sa première expérience à bord de la station. À bord de la station, on peut dire que l'on prend du recul rien qu'en observant cette petite boule bleue. Tout est hyper connecté, les frontières n'existent pas, si bien que l'on se dit que les nations ou les religions sont bien des choses inventées par l'homme. Je crois que ces paroles trouvent un écho chez beaucoup. Pour Thomas Pesquet, la porte est peut-être encore entrouverte pour un grand dieu du cosmos, peut-être. En tout cas, elle est fermée pour un dieu qui persisterait à s'attacher à telle ou telle nation, plus particulièrement. Pour le dire avec les mots de l'apôtre Paul, voilà donc que durablement, une hauteur s'est élevée contre la connaissance de Dieu. Peut-être la ressentez-vous à vos niveaux, dans vos conversations, avec des collègues, voisins et amis. Ils ne veulent rien connaître. Comment est-ce qu'on va dépasser un pareil mur ? Comment allons-nous faire connaître le Dieu inconnu ? Finalement, c'est peut-être pas pour rien que le texte que nous avons lu finit par haranguer toutes sortes de personnes, d'aussi loin qu'elles soient. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre. Comme nous le verrons tout à l'heure, il y a bien une approche divine qui pourrait renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et cette approche est si extrême qu'elle fera tourner la tête. Nous y viendrons. Deux points ce matin. Le premier à partir des versets 14 à 19. Un Dieu exigeant. Un Dieu exigeant. Il est un Dieu dont les voies ici-bas sont très curieuses, très particulières, très exigeantes. Qui eût cru que Dieu, le seul et unique Dieu, se révélerait de façon aussi engageante que cela ? Dans les versets 14 à 19, il y a bien pourtant une facette de Dieu qui serait plus consensuelle, encore aujourd'hui, il me semble. Celle du Dieu créateur, celle du verset 18. Pour le coup, tant qu'on ne rentre pas dans les détails de la création, tant qu'on en reste au langage de ce verset 18, je crois que cette présentation passerait encore dans nos cercles. Écoutez-la, car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, lui le seul Dieu, qui a façonné la terre et l'a formée, lui qui l'a fermée. Il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habitée. Très bien. Mais le prophète Ésaïe n'en reste pas à cette seule présentation de Dieu, que cela nous plaise ou non. Il présente un Dieu exigeant à au moins trois égards. Premièrement, le Dieu d'Ésaïe est un Dieu exigeant, au sens où il déclare conduire souverainement l'histoire des hommes. Il fait des vagues de tous côtés, à tous les niveaux de l'existence. C'est un très gros morceau à encaisser pour les lecteurs, pour des gens comme nous, évidemment. Le prophète Ésaïe le sait, et c'est pourquoi il en fait le grand enjeu des chapitres de son livre que nous lisons ici. C'est pas pour rien qu'il s'aventure à laisser par écrit, par avance, une preuve, la prédiction par son Dieu, avec 60 ans d'avance, de l'avènement d'un dominateur du nom de Cyrus, qui va effectivement venir bouleverser la géopolitique du Moyen-Orient à partir de 539 publiquement, mais sur les 20 années qui précèdent. Le premier niveau d'exigence du Dieu d'Ésaïe, c'est donc que des gens comme vous et moi soient forcés à se pencher sur de l'histoire ancienne. Il ne l'a pas conduite en vain. Deuxièmement, le Dieu d'Ésaïe est un Dieu exigeant, au sens où l'histoire dont il présente la conduite souveraine est l'histoire du salut. Autrement dit, une histoire orientée, une histoire angulaire, sélective. En tout cas, c'est bien ce genre d'histoire qui fait l'objet de la révélation biblique. On a dans nos Bibles deux petites pages sur la création du ciel et de la terre et 1300 pages sur la rédemption. L'histoire qui, selon Dieu, doit focaliser toute notre attention, c'est l'histoire du salut. C'est ça qu'il exige de nous. Ésaïe insiste que tous ont besoin d'un salut éternel. Là encore, c'est un très gros morceau que Dieu met et remet sur la table. Le deuxième niveau d'exigence du Dieu d'Ésaïe, c'est donc que des gens comme vous et moi soient forcés à s'interroger sur notre besoin du salut ici-bas. Il n'a pas traité le sujet en vain. Et troisièmement, le Dieu d'Ésaïe est un Dieu exigeant, au sens où il insiste que son salut passerait par un peuple serviteur en particulier, au risque d'aliéner bien sûr tous les autres. Le reproche du verset 15, voyez-le, qu'Ésaïe met dans les bouches des nations du monde antique, il vient pas de nulle part. Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Le troisième niveau d'exigence du Dieu d'Ésaïe, c'est donc que des gens comme vous et moi soient forcés à investiguer et rejoindre une descendance, la descendance d'Abraham. Il ne l'a pas désigné en vain. Un Dieu exigeant en définitive. Humainement parlant, ça explique peut-être pourquoi, sur le dernier siècle, tant de nos concitoyens se seraient éloignés du christianisme pour aller vers l'agnosticisme. Comment ça ? Vous me dites que je n'ai pas d'autre choix que de regarder en arrière les faits historiques pour connaître Dieu ? Et si je n'aime pas ce genre de rapport à l'histoire ? Comment ça va ? Vous me dites que je dois me concentrer sur le salut pour être en phase avec Dieu, comme si moi aussi j'avais d'abord besoin d'être sauvé ? Et si je n'aime pas voir les choses sous cet angle ? Comment ça, vous me dites que ce salut dont j'ai tant besoin passe par nul autre nom que le nom d'Israël que porte le peuple serviteur de Dieu, d'une alliance à l'autre ? Et si je trouve une plus grande fierté à rester avec les miens et porter le nom de ma nation ? On peut comprendre avec quelle facilité beaucoup de nos contemporains ont opté plutôt pour se dire agnostique ou déiste. Certains seront dégoûtés, en effet, de l'exigence de Dieu, comme quand une barre de saut en hauteur est rehaussée à chaque étape de la révélation biblique. Et ça conduit les gens à passer à autre chose. Cette difficulté, elle poursuit le chrétien, bien sûr. Voilà qu'on est conduit, en étudiant un peu, à se frotter à de l'hébreu, à articuler deux testaments, à entendre des prédications sur des passages aussi difficiles que ce 45e chapitre d'Ésaïe. Sérieusement ? Mais qu'allions-nous faire dans cette galère ? D'autres seront outrés d'une intention divine beaucoup trop focalisée. Comment le Dieu de l'univers oserait-il concentrer le regard de tous les humains sur un seul peuple et ses destinées ? Écoutez en ce sens cet extrait du dictionnaire philosophique rédigé par Voltaire autrefois. Entendez la jalousie qui en ressort, peut-être même la rage. Un article sur Abraham. C'est un singulier exemple de la stupidité humaine que nous avons si longtemps regardé les Juifs comme une nation qui avait tout enseigné aux autres. D'autres encore seront inquiétés par la direction que prend la prophétie d'Ésaïe. Voyez effectivement le langage plutôt martial du verset 14. Toutes les nations seront mises au pas. Je lis verset 14. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Égypte, de l'Éthiopie. Et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu et il n'y en a pas d'autre. Pour toutes ces raisons, disons-le, le Dieu d'Ésaïe n'est pas un Dieu qui est facile à aborder. Mais qu'on se rassure avec le verset 19, il y a de la transparence en lui. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement. Il y a quelque chose, accrochons-nous. Voyez-vous, c'est pour le bien-être de tous les habitants de la terre, que Dieu redirige encore et toujours l'attention, la richesse, la bénédiction vers le peuple qu'il s'est choisi. Depuis longtemps, Dieu a fait connaître son grand et bon dessein par ses paroles au patriarche Abraham, le grand-père de Jacob. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donner des moyens au peuple serviteur, comme ce fut le cas en 539, avant Jésus-Christ, quand Cyrus dirigea les richesses de pays avoisinants pour qu'ils participent au retour d'Israël sur sa terre et au relèvement du temple, c'était pour le bien du plus grand nombre. C'est pour que toutes les nations soient bénies à leur tour par un effet de ruissellement. Alors oui, vous êtes peut-être sceptique sur ce concept de ruissellement. Oui, l'Israël de l'Ancienne Alliance n'a pas vraiment été un cadeau offert au monde entier. Et il ne s'agit pas de fermer les yeux là-dessus. Effectivement, ça pose problème. Mais justement, j'attire votre attention que dans les versets 14 à 19, c'est d'un nouvel Israël qu'il s'agit. L'Israël du retour, mais alors l'Israël d'un retour véritable. Et pour en arriver à ça, il faudrait qu'Israël se réduise après plusieurs siècles de décantation, à juste un seul individu, digne, loyal, qui pourrait revigorer Israël et servir le monde entier. Cet individu, cet Israël, c'est Jésus-Christ, la descendance d'Abraham, le Christ béni. Au fond, c'est envers une histoire du salut qui se concentre sur ce serviteur-là, au centre des Écritures. C'est cela que Dieu exige de nous. Il veut notre attention là-dessus. Et ça, au moins, c'est une histoire qui arrive à son terme. Ce n'est pas une histoire qui s'embourbe, comme celle d'Israël, de l'ancien temps. À moins que peut-être elle s'embourbe. On va y revenir. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce Jésus-Christ, nouvel Israël, mis sur un piédestal par le Dieu du salut, est-ce qu'il aura toute l'attention de nos collègues, cousins et amis ? C'est pas sûr. Après avoir renvoyé l'ancien Israël aux oubliettes de l'histoire, pourquoi les agnostiques qui nous entourent ne continueraient-ils pas à faire la fine bouche envers ce Jésus ? C'est un spécimen un peu curieux, le bonhomme est trop juif, la région concernée est trop reculée, l'époque est trop ancienne. Au fond, jusqu'au bout, beaucoup de nos contemporains continuent de trouver choquant que les voix de Dieu ici-bas se concentrent encore et toujours sur un serviteur en particulier. Le Dieu exigeant ne passe décidément pas. Sur le papier, la moindre intervention de Dieu, la moindre attestation dans l'histoire devrait être un signal qui intéresse à tout prix nos contemporains. Ils veulent des traces, en voilà. Et pourtant, j'ai bien peur que beaucoup ne veulent ni ne peuvent rentrer dans cet exercice. À force de s'être désengagé intellectuellement, à force d'avoir joué au sceptique, à force d'avoir cultivé sa tranquillité dans une France laïque. Il convient donc que le prophète Ésaïe nous fasse sortir de l'ornière, nous monte d'un cran pour remettre les choses à leur place. Et c'est ce qu'il fait avec une demi-douzaine d'impératifs à partir du verset 20. Ce sera notre deuxième point. Un Dieu exigeant, surtout envers lui-même. Un Dieu exigeant, surtout envers lui-même. Ce sera les versets 20 à 25. Comme nous l'avons dit jusque-là, depuis qu'il s'est fait connaître aux hommes, le Dieu d'Ésaïe n'a pas eu de scrupules à s'associer aux destinées d'un peuple en particulier. Ça nous étonne, ça paraît risqué, mais tel est notre Dieu, un Dieu d'alliance. Mais c'est une chose de s'aventurer dans une communication publique plutôt risquée. Risquée puisqu'il s'agit d'un Israël qui n'a pas vraiment été un cadeau. C'est vrai que le Dieu souverain ne sait pas faciliter les choses en exigeant pendant des millénaires que les regards de toute l'humanité ne quittent pas Israël. C'est une chose de communiquer ainsi. C'en est une autre de tirer les conséquences de l'échec d'Israël à apporter le salut et la bénédiction à tous les peuples de la terre et de prendre sur soi. Dieu va en venir à assumer le particularisme de toute la Bible juive. Jusque-là, il avait exigé que toutes les nations prennent sur elles et regardent Israël. Et bien voilà que notre Dieu allait prendre sur lui, il allait vivre ses propres exigences. Il allait prendre sur lui Israël. En termes de particularisme assumé par Dieu, on ne fait pas mieux que l'incarnation, il y a 2000 ans, dans un coin peu glorieux de l'Empire romain au sein de l'humanité. Au fond, Dieu allait venir animer de l'intérieur ce serviteur, se faire serviteur, pour offrir enfin le salut à toutes les nations. Après des siècles d'impasse, il fallait un rebondissement pas moins spectaculaire. Si on veut bien la recevoir, cette énième initiative divine va même venir nous faire particulièrement chaud au cœur. Pourquoi cela ? Parce que souvent, avec les gens exigeants, nous pouvons avoir l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle ils nous mettent, de ce par quoi ils nous font passer. Jusqu'à ce qu'on mesure, comme c'est souvent le cas, que les gens exigeants ne sont pas moins exigeants envers eux-mêmes dans le meilleur des cas. Cette perspective qui nous réchauffe envers Dieu est chouette, me direz-vous. Mais d'où est-ce qu'elle sort, versets 20 à 25 ? Où est-il question d'incarnation ? Dans ces versets, où est-il question que Dieu retrousse ses manches ? Où est-il question d'un Dieu surtout exigeant envers lui-même ? Eh bien, suivez l'enchaînement de ces versets avec moi. Au verset 20, le Dieu d'Israël commence par rassembler large. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, rescapez des nations. Puis au verset 21, il met toute sa personne en jeu. La scène est celle d'un tribunal. Un tribunal devant lequel Dieu prend la place d'une partie, pas celle du juge. Dieu se met sur la sellette. Et là, il annonce qu'il ne va pas déroger à la trajectoire qui a été tracée. C'est dit, il le répète, le monde va connaître un nouvel ordre avec l'avènement de Cyrus. Mais si c'était que ce point-là, il n'y a pas que cela qui a été dit sous la plume d'Ésaïe. Il n'y a pas que cela que Dieu doit prendre, redire et répéter, et assumer. Vous vous souvenez qu'au verset 14 et suivant, il y avait toutes sortes de peuples qui venaient à la suite d'Israël et qui devaient trouver le salut avec Israël. Qu'en est-il de cette promesse-là ? Eh bien, c'est aussi par rapport à cela que le Dieu d'Ésaïe se met sur la ligne, qu'il persiste et qu'il signe. Regardez la fin du verset 21. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu, un Dieu juste et qui sauve. Il sauve, il sauvera, c'est dit. Mais c'est de la folie. s'il va devoir s'en tenir à sauver les nations par le biais d'Israël, c'est foutu comme projet. Nos palpitations peuvent augmenter à ce stade. Quel feuilleton ! Comment est-ce qu'il va s'en sortir ? Verset 22 interpelle ensuite les regards. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre. » On reste suspendu l'espace de ce verset 22. « Tournez-vous vers moi, soyez sauvés. » Et là, tout d'un coup, on est perdu à la lecture. Car verset 23 parle de genoux qui fléchissent. On nous avait promis un salut universel. D'où vient-il que des genoux fléchissent ? C'est une perspective de soumission qui nous reste entre la gorge, je crois. Mais est-ce que c'est vraiment le geste d'humiliation qu'on pourrait croire à première lecture ? Qui s'humilie vraiment dans tout ça ? Je vous le demande, est-ce que c'est celui qui est à genoux et qui lève les yeux ? Ou est-ce que c'est celui qui est perché là-haut ? Quand il est écrit « Tournez-vous vers moi », de quel moi s'agit-il en effet ? Eh bien, comme nous le confirme l'Épître aux Philippiens dans son chapitre 2, le moi qui parle, le moi devant lequel les genoux fléchissent, c'est un Dieu-homme passé par la crucifixion. C'est celui qui emporte les marques à jamais. C'est celui qui ne cessera jamais d'être un agneau immolé. C'est lui qui exige et reçoit l'attention. Avec le recul, peut-être que le début du verset 23 aurait dû nous sensibiliser à l'incarnation. Regardez-le. Effectivement, la parole est mise par Dieu, c'est le Fils. Le Fils, c'est la justice qui sort de Dieu. Il est la parole qui ne sera pas révoquée. Il est ce cadeau donné aux hommes. Surprise, voilà donc le Dieu exigeant qui exige une attention soutenue de la part de gens comme vous et moi. Un Dieu en croix. Qui eût cru ? Est-ce qu'il intimide encore nos collègues, voisins, amis ? De quoi ont-ils peur ? Notre Dieu n'est pas un Dieu brutal dans ses exigences. C'est un Dieu sauveur. S'il est conduit à se mettre au travers de notre route, c'est pas pour nous faire violence. Disons plutôt qu'on allait droit vers un précipice en se donnant des grands airs. En tenant des discours savants. Et voilà qu'une croix se dresse, nous fait perdre l'équilibre, nous met donc à genoux, et ce faisant, elle nous évite de tomber dans le précipice. Et on se retrouve là un peu honteux des raisonnements, de l'hostilité qu'on a pu entretenir. Ok, il nous regarde de haut et nous sommes à genoux, mais est-ce que nous voudrions échanger nos places ? De la résistance qu'on avait pu entretenir envers un Dieu exigeant, que reste-t-il ? A priori, toutes sortes de personnes autour de nous, dans cette ville de Paris, n'ont pas envie de se concentrer sur les preuves de l'existence du Dieu d'Israël. Ils n'ont pas envie de s'arrêter à l'idée fixe de ce Dieu, cette idée qu'il s'est mis en tête de nous sauver. Ça ne les intéresse pas. Ils insistent pour être laissés tranquilles, pour ne pas avoir à se pencher et à se fatiguer avec la révélation de Dieu dans la Bible. Mais ça, notre Dieu est trop exigeant pour le permettre. Quand quelqu'un va dans le mur, par amour, ne faut-il pas intervenir, se mettre en travers ? Alors le Dieu créateur s'est interposé une fois pour toutes, d'une manière particulièrement intense, même sanglante. Que ça nous plaise ou non, on est tous embarqués dans un détour historique par la Palestine. Le Dieu de Jésus-Christ s'est rendu incontournable en effet, qu'on ouvre la Bible ou pas. Il a planté une croix ici-bas dont la résonance va jusqu'à nos jours. Il suffit d'en juger par le fait que le décompte des années se fait par référence à cet événement-là. Même si on n'aime pas l'histoire, on y est renvoyé. Même si on n'ouvre pas la Bible, on réfléchit à partir de lui. Un Seigneur en croix, voilà une posture divine un peu trop extrême à notre goût. Un geste dont nous ne voulions pas vraiment entendre parler, mais qui, j'en suis persuadé, sera en mesure de pénétrer des carapaces sera en mesure de désarmer intellectuellement, en mesure de renverser les forteresses, de renverser les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Le Christ n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi ?» Sa croix élevée est comme un fleuve qui passe, qui emporte toute résistance sur son passage, qui nous éclabousse. Et je parle d'être éclaboussé au passage, parce que le Dieu qui entend nous soumettre est un Dieu sanglant. Écoutez à nouveau ces versets de la lettre aux Philippiens. Jésus-Christ, dont la condition était celle de Dieu, n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Un crucifié a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi nos voisins, collègues et amis se sentiraient-ils bousculés si leur pensée devenait captive à son obéissance? Il n'y a pas de quoi. Combien cette initiative divine en croix est troublante, même pour ceux qui répètent ne vouloir et ne pouvoir rien savoir sur Dieu. Ce tournant de l'histoire du salut les force à se positionner. Exploitons-le. Face à un fleuve qui vient de la croix, qui peut rester agnostique? Qui peut rester distant? Tournez-vous vers moi et soyez sauvés. Vous, tous les confins de la terre. On entend cette offre à entrer dans la bénédiction divine. Elle est vraiment pour tous, même pour des personnes apparemment distantes. Est-ce que nous, qui sommes réunis là ce matin, saurons relayer cette offre avec autant de passion que d'insistance? C'est un grand défi pour les chrétiens parmi nous. Bien souvent, on a l'impression de demander une faveur à nos amis quand on les sollicite pour qu'ils nous écoutent parler de Dieu. Chers amis, n'ayons pas honte de notre Dieu, ne soyons pas confus à son propos. Il est le Dieu juste et qui sauve. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Certes, notre Dieu n'est pas facile à aborder pour nos collègues, voisins, amis, parce que sa patience a fait que ses interactions avec les hommes se sont étalées dans le temps, dans l'espace. Mais s'il était un Dieu sorti du chapeau, il serait une idole, n'est-ce pas? Retenons ceci, tout ce qu'il exige de nous n'est rien à côté de son exigence envers lui-même. Pour le salut du monde entier, Dieu est venu ici-bas pour monter en croix, faire en sorte que toutes les têtes se tournent vers lui. Et que nous trouvions tout naturellement notre place à sa suite, dans le rang, mis au pas, avec joie. Verset 25, « Par l'Éternel seront justifiés et se glorifieront tous les descendants d'Israël, c'est-à-dire vous, moi, tous, quiconque. » Prions ensemble avant d'entonner un dernier cantique. Père Céleste, tu as voulu donner à notre monde un serviteur pour que le monde en soit béni. Le service qu'il nous rend, c'est d'attirer tous les êtres humains et les forcer à être réconciliés à toi. À notre honte, nous reconnaissons que c'est seulement alors que le Christ est élevé en croix qu'il a eu toute notre attention. C'est seulement alors qu'il et crucifié que nous avons bien voulu nous mettre à le suivre, à l'écouter et à suivre ses voies. Merci de ce que tu es intervenu de façon puissante, de façon intense, pour nous sauver de nous-mêmes, de nos illusions, de nos raisonnements mauvais. Livrés à nous-mêmes, nous ne nous serions jamais rattachés à la bénédiction d'Abraham. Mais désormais, nous avons un Seigneur, un chef, un guide pour nous y faire entrer pour le meilleur. Garde-nous de jamais avoir honte de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous d'être confus envers toi, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Permet que, notamment à travers nous, l'attraction de la croix puisse s'exercer pleinement. Que notre pays, que notre ville en soit ébranlé. Que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Prions ça au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.